Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Considéré comme l'un des plus grands docteurs de l'histoire, saint Thomas d'Aquin était aussi un poète. Auteur de nombreux poèmes philosophiques, il a répandu sa pensée tout au long de sa vie, au XIIIe siècle, mais aussi bien plus tard. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Michel Zinc. Vous êtes académicien et professeur émérite au Collège de France. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et vous êtes accompagné par le frère Philippe-Marie Margelidon, directeur de la Revue Thomiste, dominicain de la province de Toulouse et président de l'association des centenaires Saint-Thomas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Michel Zinc, le 10 octobre dernier, vous avez donné à l'Institut catholique de Toulouse une conférence sur Saint-Thomas d'Aquin et les poètes. Pourquoi avoir choisi d'intituler cette conférence de cette manière-là ?
Parce que je suis très ignorant et très peu thomiste. Enfin, très peu thomiste, c'est pas que je suis anti-thomiste, mais c'est que je connais mal le thomisme, que je ne suis pas philosophe, mais spécialiste, on peut dire, de littérature du Moyen-Âge, et que la seule façon pour moi d'aborder saint Thomas sans dire trop de bêtises, j'en ai sûrement dit quand tout de même, c'était de le prendre par ce biais qui était un peu particulier parce que saint Thomas, vous avez dit que son œuvre poétique est abondante. Non, il a composé quelques hymnes liturgiques et c'est paradoxal parce que il ne se fait pas une haute idée de la poésie. Donc le sujet, le seul intérêt du sujet était de se demander pourquoi a-t-il une idée dévalorisante de la poésie et pourquoi a-t-il composé tout de même des poèmes ? Voilà, ça faisait un sujet pour une conférence, mais avec ça, je ne pourrais pas marcher sur les pas du père Margelidon. Hein.
Mon père, justement, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de saint Thomas. Pourquoi c'était important d'apporter cette dimension
Alors, en effet, c'est la deuxième année, on commence la deuxième année du triple centenaire saint Thomas. Et j'avais souhaité, pour commencer cette deuxième année, que M. Zinc, donc, qui est premier membre du comité de patronage de ce triple centenaire, soit invité et nous propose quelque chose qui ne soit pas habituellement ce que nous faisons. Or, c'est lui-même qui m'a suggéré ce sujet, que j'ai trouvé tout à fait original et intéressant. Et il a honoré d'ailleurs la requête. C'est une manière d'aborder les saint Thomas qui n'est pas habituelle. Pour des lecteurs de la Revue Thomiste, d'ailleurs, quand ils verront l'article qui paraîtra à la suite de cette conférence, ils vont trouver ça original. Et puis surtout, original mais intéressant même pour le travail du théologien. C'est-à-dire que le théologien, il s'intéresse sur le statut du langage. Et quand il aborde, en effet, saint Thomas aborde la métaphore, il n'en dit pas beaucoup de bien. Donc c'était intéressant d'avoir des explications sur le langage poétique et la place de la métaphore dans ce langage pour la théologie.
Monsieur Zinc, vous disiez en introduction que saint Thomas d'Aquin avait pas une grande estime de la poésie. Pourquoi ?
Eh bien, il dit que c'est une science de rien, ou la dernière des sciences. Et si on réunit les passages où il en parle, il fait deux griefs à la poésie. L'un des griefs est que la poésie ne dit pas la vérité. Alors, qu'entend-il par là ? C'est une des questions. Et l'autre grief, qui recouvre en partie le premier, mais en partie seulement, c'est que la poésie est un langage métaphorique, un langage de la représentation, et que, précisément pour cette raison, elle ne peut pas atteindre la vérité. Mais il y a une raison plus fondamentale pour laquelle elle ne peut pas. Donc, il est face à ces deux objections à un langage poétique, et c'est pourquoi la question se posait. Et la question était de savoir, pour répondre à ces objections, qu'entend-il par poésie? Pour saint Thomas, qui vit, pense, enseigne et écrit en latin, et qui a une profonde culture latine, ce qu'il appelle poésie, comme tous les lettrés de son époque, c'est la poésie latine classique, c'est-à-dire avec une versification métrique, une alternance de longues et de brèves. On écrit des hexamètres, des pentamètres, etc. Or, la poésie de son temps, la poésie dans les langues vulgaires, dans les langues romanes, en français, en languedoc, en lombard, en ce qu'on veut, en catalan, est une poésie rythmique, comme on dit, c'est-à-dire qui compte qui fait le compte des syllabes, donc des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins, qui commencent à exister, qui sont une nouveauté, mais qu'il emploie une fois, etc. C'est quelque chose qui existait dès avant l'apparition de ces langues romanes, en latin tardif, mais en remontant loin dans le latin tardif, si je veux dire, parce que saint Ambroise au IVe siècle le fait déjà, cette poésie rythmique répondait à une évolution du latin qui faisait qu'on n'entendait plus bien les longueurs des syllabes. Donc on sentait le rythme de la poésie rythmique et on ne sentait plus le maître de la poésie métrique. Bon. Donc c'est ça, la poésie évolue dans ce sens. À l'époque de saint Thomas, toute la poésie française ou occitane, qui est, comme on le sait, d'une richesse considérable, est en poésie rythmique. Mais les lettrés continuaient à appeler poésie uniquement la poésie métrique. Et pour eux, la poésie rythmique n'était pas de la poésie, c'était autre chose. Mmh. Et la preuve, c'est que dans la poésie liturgique, ce que nous appelons la poésie liturgique, eh bien, on appelle prose un poème liturgique en poésie rythmique. De sorte que saint Thomas, en composant des hymnes chantés dans le cadre de la liturgie, avait bien le sentiment de s'adresser à un public, ou un public aussi bien des laïcs que les moines, que n'importe qui était sensible à ces rythmes, qui pouvait en tirer quelque chose pour leur formation, pour leur édification, des formules frappantes, une sorte de formulation mnémotechnique, en somme, de la vérité. Hein. Mais c'était autre chose que de la poésie. De même, enfin, j'ose à peine faire cette comparaison, n'est-ce pas, que le Seigneur me pardonne, mais c'est un peu comme un langage publicitaire qui peut avoir une formule extrêmement frappante, extrêmement bien trouvée, qui passe quelquefois dans le langage courant, mais on ne dirait pas c'est de la poésie. Dans mon enfance, même si ça a la forme poétique, dans mon enfance, il y avait, comme on voit, comme les choses ont changé, que la poésie meurt, pour la publicité de l'eau de Badois n'était pas comme plus tard, et Badadi et Badadois, la meilleure eau, c'est la Badois, ce qui est déjà poétique. C'était eau de Seine, détourne-toi, elle est plus saine, l'eau de Badois. Eh bien, bon, c'est un quatrain si on veut, ça ne prétend pas être de la poésie. Je ne conclurai pas en disant tel saint Thomas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire.
La poésie, donc, vous nous avez expliqué hier qu'est-ce que saint Thomas mettait sous comme le genre littéraire poétique qui rapportait à la fable.
Oui, alors limite. Oui, vous avez raison. Alors ça, c'est du côté de la vérité. Il est un peu embarrassé. Enfin, bon, saint Thomas n'est jamais embarrassé. Enfin, si, il s'embarrasse lui-même puisqu'il procède par question, par objection, par réponse, par dialectiquement, en somme, par confrontation des diverses solutions. Et il dit la métaphore n'est pas vraie, puisque c'est une similitude, mais de la réalité ou du vrai, mais ce n'est pas le vrai. Donc, elle est théoriquement répréhensible. Bon. Mais on trouve des métaphores dans l'Écriture sainte. Il y en a autant qu'on veut. Bon. Et sa solution, en somme, c'est que dans la poésie, par exemple, il y a un type de métaphore qui est, s'éloigne de la vérité par défaut de vérité, par manque de vérité. Dans la poésie, on est dans une fiction qui n'arrive pas à atteindre le niveau de la vérité. Tandis que les vérités, les métaphores utilisées dans l'Écriture sainte renvoient à une vérité qui est au-delà de ce que la raison peut saisir. La vérité poétique est en deçà de la saison. La raison ne peut pas la saisir vraiment parce que ça ne correspond pas, c'est pas logique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour la métaphore d'Écriture sainte, c'est parce que ça renvoie à de tels mystères qu'ils dépassent la raison humaine et que, de toute façon, elle ne pourrait pas les saisir, donc c'est la seule manière de les rendre accessibles. Et il y a un dernier point que j'aurais dû présenter avant, bon, je suis nul, c'est que à l'époque de saint Thomas, ce qu'on appelle, j'aurais dû commencer par là, ce qu'on appelle poésie, c'est généralement la fable, d'ailleurs le mot fable aussi, antique, c'est-à-dire la mythologie, c'est-à-dire le contenu de la religion païenne. Et c'est tellement vrai que très tard, par exemple, un poète tardif, tardif vu du Moyen-Âge, comme Christine de Pizan, à cheval sur le 14e et le 15e, le début du 15e siècle, Christine de Pizan est essentiellement une poétesse. Elle n'emploie jamais le mot poésie pour désigner ses poèmes. Elle emploie une fois le mot poésie pour désigner l'une de ses rares œuvres en prose. Mais c'est une œuvre qui est une sorte de compilation de mythologie. Et pendant une grande partie du Moyen-Âge, au moins jusqu'au XIVe siècle, en latin ou dans les langues vulgaires, poeta ou poète désigne, en Italie jusqu'à Dante, c'est Dante Pétrarque, le début du Manim, ce qui revendique, ces poètes revendiquent le nom de poète. Mais avant, jamais les auteurs de poèmes n'auraient dit « je suis un poète ». Ils diraient « je suis un chanteur ». « Je suis », et encore c'est quelquefois péjoratif, « je suis ici un troubadour », quelqu'un qui trouve des chansons trobards, ou un trouvère dans le Nord, quelqu'un qui trouve, etc. Ils n'auraient pas employé le mot « poète », parce que le mot « poète » désignait un prêtre du paganisme. Et le mot « poète » était associé à des mots comme « mage », comme « vates », un inspiré par une source mystérieuse, mais magique, en quelque sorte, une sorte de magicien. C'était associé à « philosophe », mot qui désignait spécifiquement les auteurs de l'Antiquité païenne. Vraiment. Tout ça allait ensemble. Donc, le mot « poète » n'était pas recevable, le mot « poésie » n'était pas recevable. Et ça, c'est la première raison, c'est pour ça que j'ai tort de vous le dire seulement maintenant. Pour saint Thomas, probablement, la poésie renvoie au paganisme et à ces fables, à ces récits qui sont des romans en quelque sorte et qui ne peuvent en aucune façon prétendre à la vérité.
Saint Thomas, lui, va pourtant écrire certains poèmes. Alors vous le disiez, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns qui existent. Quels sont-ils alors? Et justement, il nous parle de quoi?
Alors, eh bien, il parle de ce qui est pour lui le grand sujet, qui est l'Eucharistie et la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et il écrit, il compose ses poèmes pour les offices de ce que nous appelons la fête du corps et du sang du Christ, ce qu'on appelle aujourd'hui la fête Dieu, qui est une fête qui est nouvelle. qui a été créé de son temps, peut-être a-t-il joué un rôle. Il écrit un poème pour l'adoration du Saint-Sacrement. Donc, il sait très bien de quoi il veut parler et ce qu'il veut enseigner. Et ce qu'il y a de frappant dans ces hymnes, c'est qu'elles ont survécu jusqu'à nos jours, enfin jusqu'au passage à la liturgie en langue vulgaire, et qu'elles elles ont été portées par des mélodies admirables, et elles ont une poétique qui est réelle, mais qui est comme à l'opposé de cette poétique métaphorique qu'il condamne. Ce sont des poèmes qui disent, avec une extrême habileté dans le maniement de la versification en langue vulgaire, avec une grande précision, avec à la fois beaucoup d'économie de moyens, mais des formulations extrêmement claires qui formulent ce qu'est l'Eucharistie, ce qu'elle doit être pour le croyant, la difficulté, en un sens, de la foi dans la présence réelle et l'explication, en quelque sorte, pourquoi nous pouvons quand même, nous devons croire à cette présence réelle. Et alors, il y a de temps en temps des formulations qui sont un peu lourdes, si on veut. Par exemple, enfin, si je peux me permettre, je vais me faire taper sur les doigts, mais dans le Tantum Ergo, les deux dernières strophes du Pange Lingua, la première strophe du Tantum Ergo, donc l'avant-dernière strophe du poème, est tout simplement admirable. Et la dernière est Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antecum documentum cedat novo retui prestet fides supplementum sensum defectui, que la foi apporte un supplément au défaut, au manque des sens. C'est exactement, les sens ne nous permettent pas percevoir la présence réelle du Christ. Nous ne pouvons pas nous fier aux sens comme nous le faisons généralement dans la vie, mais à ce moment-là, la foi apporte par la grâce ce supplément qui nous permet d'y croire. Mais la toute dernière strophe, est une expression de louange aux trois personnes de la Trinité. Et là, il y a une accumulation de termes qui disent la louange, et qu'il me pardonne, ça fait un peu remplissage. Mais d'autre part, il montre une très grande habileté dans l'usage des formes, alors je ne peux pas dire métrique, ce qui renverrait à la métrique, mais des formes prosodiques, si on veut, du type de vers en usage dans la poésie rythmique de son temps, à la fois en latin et en français. Il utilise différents type de vers, l'octosyllabe généralement, octosyllabe avec un heptasyllabe, ensuite un vers de 7 pieds sur un vers de 8 pieds, ce qui fait un tout petit choc, ce qui attire l'attention. l'alexandrin, je le dis, qui n'est pas tellement employé, enfin qui commence, mais qui est un vers nouveau, qui est un double sixain en fait au départ, et puis un double vers de 6 pieds, un double hexasyllabe, et qui utilise quelque chose qui est très comme à la mode de son temps, qui est des successions de tercets, qui ça ensuite restera dans le sonnet à l'italienne, mais qui n'existe pas encore, et des tercets qui s'enchaînent par les rimes, des tercets qui se répondent, des tercets qui sont marqués comme tercets justement par ce vers plus bref qui vient rompre un peu le rythme et en même temps accroître le rythme de la succession des vers, est quelque chose qu'on trouve chez son adversaire, non pas personnel mais général, Rutebeuf, qui est le plus grand poète de ce type à l'époque et exactement à son époque, et Rutebeuf qui écrit de cette manière des poèmes polémiques contre les frères, en partie contre les dominicains à l'époque. Mais après, il a changé. Il se faisait payer pour ses poèmes, il était misérable, donc bon, là qu'il payait. Et tout cela, Thomas le manie avec une extrême aisance. Et, visiblement, cela, il a de l'oreille et c'est quelque chose dont il est familier.
Frère Philippe-Marie, Marchelidon, est-ce que justement aujourd'hui on retrouve certains des poèmes de saint Thomas dans la liturgie ou l'étude qu'on fait justement
L'office du Saint-Sacrement existe intégralement dans la liturgie après le Concile. Le Concile n'a pas touché, la réforme liturgique n'a pas touché à cet office de trois bricoles. Mais la difficulté pour nous, c'est que, en effet, le passage à la langue vernaculaire fait que ce sont ces hymnes qu'on ne peut pas, ou difficilement, si vous voulez, transcrire en langue vernaculaire. Donc, les catholiques aujourd'hui les connaissent moins. Mais ils font partie intégrante du patrimoine liturgique actuel de l'Église. Quand il m'arrive de célébrer la fête de Dieu à droite et à gauche, on me propose de célébrer la messe latine, et parce que je connais le latin et que je chante le grégorien. Et donc, on reprend, en 2023, on reprend cet office. Donc, c'est toujours l'office de l'Église. Et si vous allez dans les monastères bénédictins, par exemple, pas loin d'ici, à Boulors, les cisterciennes, elles chantent l'office du Saint-Sacrement intégralement, celui de saint Thomas. Et donc, on retrouve ces poèmes liturgiques de saint Thomas.
Michel Zinc, dans un deuxième temps, je voulais qu'on aborde la relation de saint Thomas avec les poètes de son époque. Est-ce que justement il y a des liens qui existent au XIIIe siècle?
Alors, avec les poètes en langue vernaculaire, nous n'avons pas, à ma connaissance, de preuves qu'il en ait rencontré, mais eux s'occupent beaucoup de lui. Et en particulier, les deux plus importants poètes à Paris, de son temps, mais aussi les deux plus grands poètes peut-être en français, ou en tout cas pour l'un d'entre eux, s'en sont pris violemment aux ordres mendiants, et même avant, parce qu'à cause des conflits qui existaient à l'Université de Paris entre les professeurs de théologie qui étaient des séculiers et des clercs séculiers et et les religieux, des ordres mendiants. Dès que les ordres mendiants ont été, sont apparus et ont été acceptés comme ordres religieux, eh bien, on a créé à l'Université de Paris une chaire pour les franciscains et deux chaires pour les dominicains. Et il y a eu tout de suite des personnalités de premier plan, et plus que de premier plan, beaucoup plus importantes que ce qu'il y avait comme professeur séculier. Il y a eu Alexandre de Halès, qui était anglais, et Saint Bonaventure, italien pour les franciscains. Et pour les dominicains, il y a eu, et à un moment ensemble, Saint Albert le Grand et Saint Thomas. Bon. Alors la querelle a éclaté pour des raisons matérielles aussi, c'est que d'abord ils étaient brillants et d'autre part ces nouveaux ordres attiraient énormément et on voyait à ce moment-là à travers toute l'Europe des scènes un peu théâtrales, ça s'était produit à Bologne je crois, un professeur qui entre en professeur et qui commence son cours et qui au milieu du cours revêt le froc des frères prêcheurs, etc. Alors ça faisait un effet terrible. Et puis surtout, il fallait bien vivre. Les professeurs séculiers se faisaient payer par les étudiants. Il fallait bien qu'ils vivent. Et les professeurs mendiants, comme ils étaient mendiants, ils n'avaient pas à se soucier de la matérielle, de sorte que c'était gratuit. Et ça, c'était bon. Et il y a eu une première scission, enfin, premier conflit dans les années vers 1230. Et à ce moment-là, la faculté des arts, c'est-à-dire le début des études, on enseignait le trivium et le quadrivium, c'est-à-dire en gros, enfin bon, les matières littéraires et scientifiques, grammaire, rhétorique, etc., puis géométrie, musique. La faculté des arts a fait sécession, a fait grève, et puis est allé à Orléans. Voilà. Et ils se sont... alors ça a duré longtemps, après ils sont revenus, mais enfin, ça a été la base de l'université d'Orléans, d'ailleurs. Et il y a un poème de l'époque, dans un poète moins connu, qui s'appelle « La bataille des arts », et où on voit, ce sont les arts, les combattants, enfin, qui se battent les uns contre les autres, les Orléanais contre les Parisiens, etc. Et lui, le poète, naturellement, est du côté de la faculté des arts, contre les théologiens. Et puis, dans les années 1250-1260, alors là, le conflit a reparu beaucoup plus violent. À ce moment-là, les séculiers, menés par un professeur qui serait obscur s'il n'avait pas été ce leader, qui s'appelait Guillaume de Saint-Amour, ont eu un porte-parole poète, hein, qui était Jean de Main. Et Jean de Main n'est pas n'importe qui, parce que c'est le deuxième auteur du roman de la Rose, grand poète ce grand poème allégorique, plus de 20 000 vers en tout, d'une séduction, de la conquête amoureuse, commencé par Guillaume de Loris, dont on ne sait pas trop qui c'était, et continué par ce Jean de Main qui est très connu d'autre part. Dans le roman de la Rose, les frères, qui sont des dominicains, c'est surtout à eux qu'on s'en prend, n'ont pas le beau rôle. Il y en a deux, il y a Faux Semblant et une sœur Abstinence Contrainte, l'austérité affectée, l'hypocrite, qui essaye de... Oui, de voilà, enfin, qui n'ont pas le beau rôle. Bon. Et puis, à la suite, ce flambeau de poète au service des séculiers est repris par Ruteboeuf, qui était champenois, enfin il s'est retrouvé là. Et d'ailleurs, le premier poème de Ruteboeuf est à la gloire des franciscains de Troyes, ce qui montre que ce n'était pas les convictions particulièrement qui le portaient. Mais ensuite, alors il y a un fabliau qui s'appelle Frère Denise le Cordelier. Frère Denise, bon, voilà, s'en prend à ses pénitentes, et il est découvert. Et il y a des poèmes sur les ordres de Paris. Alors il fait le tour de Paris en décrivant tous les couvents de frères, il les traîne dans la boue, il s'en prend violemment au roi qui est Saint-Louis, parce que le roi protège les frères. Au moment où il y a un changement de pape, il y a enfin un pape qui n'est pas favorable aux frères, alors il exulte, il y a un long poème là-dessus, et voilà, c'était le contexte poétique à Paris, au moment où saint Thomas y était. Et rien ne dit que saint Thomas était au-dessus de tout ça, rien ne dit qu'il se soit intéressé particulièrement à la poésie en français, enfin, ou dans les langues romanes, ou dans les langues vernaculaires. Pour le reste, rien ne dit non plus qu'il se soit particulièrement... Il connaissait forcément la littérature latine, comme ils étaient tous, ça l'ait intéressé particulièrement. En revanche, cet aspect pastoral, en quelque sorte, même pour un très grand théologien, et justement parce que c'était un très grand théologien, cet aspect pastoral qui est... c'est le sujet de mon dernier livre, mais c'est pas... Il est ni fait ni à faire. qui est le fond, enfin, qui est essentiel au christianisme, qui est presque une nouveauté, parce que le paganisme antique était, c'est une religion civique, vous demandez d'accomplir les rites, de sacrifier, de faire ceci, cela, on vous demandait pas ce que vous en pensiez, au fond. Tandis que le christianisme exige la conversion du cœur, exige qu'on y croit, et c'est là que le théologien important exige qu'on comprenne un peu ce qu'on croit. Si simple qu'on soit, et qu'on comprenne quelque chose qui est très très difficile. Ni l'Eucharistie, ni la Trinité sont des mystères faciles à expliquer. Mmh. Donc il y a une sorte de défi pédagogique dans le christianisme qui a été relevé dès le début. Dès le latin, on voit très bien les formes de saint Ambroise, de saint Césaire d'Arles, pour écrire la poésie qui sonne à l'oreille du peuple, pour prêcher dans le langage du peuple. Et quand les nouvelles langues issues du latin, donc les langues romanes, la langue d'oc, le français, etc., la langue de si, comme disait Dante, apparaissent, à ce moment-là, encore plus, il fallait bien prêcher. Et saint Thomas, les poèmes, les hymnes de saint Thomas, donc en latin et dans un cadre un petit peu plus relevé, participe du même effort. Il cite lui-même, là, dans un passage où il est question de poésie, la formule de saint Paul dans l'épître aux Romains, « Sapientibus et incipientibus debitor sum », « Je me dois aux savants et aux ignorants » ou « aux sages et à ceux qui ne le sont pas, qui au départ sont des fous, puisque sapiens a le double sens, comme sage en français à l'époque, et que dans le psaume 1, Dixit incipiens in corde suo non est deus, alors incipiens, l'insensé, a dit dans son cœur Dieu n'existe pas, et ça c'est la traduction de la Vulgate pour le texte de la Septante, de la Bible grecque, puisqu'il a traduit, Saint Jérôme a traduit les psaumes d'après la Septante et d'après la Bible hébraïque, la Bible massorétique. Et la traduction de la Bible hébraïque dit « Dixit stultus ». L'imbécile dit en son cœur, etc. Mais très sagement, la liturgie de l'Église a choisi la traduction de saint Paul selon la Septante. Et d'ailleurs, enfin, ça nous entraînerait loin. Enfin, puis je parle sous le contrôle de Joël Malin, de plus savant que moi. C'est que la Bible massorétique, la Bible hébraïque, avait été remaniée au 1er siècle après le Christ, et dans certains cas pour les psaumes, justement pour répondre au christianisme débutant, on le voit dans le psaume 21 par exemple. Et enfin bref, Jérôme, qui était un très bon philologue et lui pas un stultus, avait bien vu qu'il fallait on ne pouvait pas se contenter d'une simple traduction, qu'il fallait traduire les deux. Et l'Église, qui n'est pas stulta, a choisi pour ça le texte de la Septante. Enfin bon, excusez-moi, je m'égare beaucoup.
Mais c'est très intéressant. Pour finir, frère Philippe Marie-Marge de Lidon, est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être les événements qui sont prévus pour cette deuxième année, pour célébrer les 700 ans de la canonisation de Saint-Thomas d'Aquin?
Cette année donc est inaugurée par la conférence de Monsieur Zinck, de Maître Zinck, et puis à partir du mois de janvier, nous allons avoir une série d'événements donc liturgiques et intellectuels, liturgiques autour de l'office de saint Thomas, comme nous l'avons fait l'année dernière. On va chanter l'office grégorien intégralement de la saint Thomas, donc au Saint-Cernin. Et puis, avec un chœur grégorien, et puis des frères. Et nous ferons de même pour l'office du Saint-Sacrement, puisqu'on n'a pas fait depuis à peu près 70 ans. Nous reprenons intégralement l'office du Saint-Sacrement, qui sera changé aussi à Saint-Cernin, avec le chœur grégorien de Saint-Cernin et avec des frères. Et ces deux grands moments, si vous voulez, liturgiques, il y aura ponctué entre ces deux moments des colloques en France et en Espagne. Un colloque à Barcelone, un colloque à Paris qui aura lieu donc au Bernardin, une journée d'études avec les Dominicains et les professeurs des Bernardins, et puis un autre colloque à Toulouse. En janvier, juste avant la Saint-Thomas, sur un thème, une thématique moins abordée, mais qui est très importante, en tout cas pour l'histoire du thomisme, les rapports entre la philosophie thomiste et le droit. Donc nous allons avoir des événements qu'on peut appeler culturels, variés, voyez, à la fois liturgiques et intellectuel, et puis autour il y aura d'autres choses, des concerts de musique sacrée autour de saint Thomas puisqu'il est l'auteur de l'Office des Sacrements. On va cette fois-ci, la dernière nous avions fait chanter des messes inédites du 15e et du 16e, et cette année ce sont des pièces d'orgue du répertoire français 19e, 20e. Voilà. Et puis, alors, il y a les publications qui vont... Mmh. Il y en a déjà trois pour 2023. Il y en aura trois ou quatre pour 2024, auxquelles Maître Zinc va y participera. Et nous ferons ensuite, puisqu'en tout, il y en a 12 pratiquement, jusqu'en 2025. Donc voilà, pour 2024, nous avons tout ça. Donc c'est un gros
programme.
Comme on dit maintenant, challenge, un horrible, mais enfin, challenge qui a lieu, donc, oui, principalement à Toulouse, mais qui se déplace aussi à Paris et à Barcelone.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci particulièrement à vous, Monsieur Zinc, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous inonder de votre savoir sur saint Thomas à l'antenne de Radio
invité.
Présence. Merci à vous. Merci, frère Philippe Marie Marjolidon, aussi d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.